Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans un brin d'histoire, je vais évoquer Mathieu Lacombe, maire héroïque de Rieux-Volvestre. En 1944, Rieux-Volvestre est une petite ville rurale de 1300 habitants. Le maire, Mathieu Lacombe, est un artisan tailleur, aimé de ses concitoyens. Élu durant la Troisième République, proche du Front populaire, il est resté présent durant l'occupation, n'ayant qu'un seul souci, aider les populations à passer cette période très douloureuse. Il nous est essentiel de relater certains événements survenus à Rieux le 16 juillet 1944, afin de faire ressurgir l'héroïsme de ce maire qui, par sa modestie, n'a jamais voulu s'en glorifier.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage.
Rappelons rapidement la situation dans notre Volvestre en ce mois de juillet 1944. Le débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin va provoquer chez les Allemands des réactions violentes d'être blessés et vengeurs. L'état-major allemand du groupe armé commandé par le général Johannes Blaskowitz, installé au nord de Toulouse à Rouffignac-Tolosan, décide de sécuriser les communications stratégiques entre le bassin aquitain et méditerranée. Il entreprend d'éradiquer les maquis des Pyrénées. Du mois de juin au mois d'août 1944, les forces allemandes de ces départements lancent des opérations contre les maquis et décident de châtier les populations civiles en relation avec ces maquis. Les unités allemandes engagées étaient celles ayant servi dans les combats d'Europe de l'Est contre l'armée rouge et retirées en France dans le sud-ouest pour se reconstruire, ceci peu de temps avant. Dès le 10 juin 1944, environ 600 hommes de la division SS d'Asreich sont cantonnés dans le sud de Toulouse, autour du Vernet et Haute-Rive. Le commandant SS Helmut Streber est responsable des opérations punitives contre les maquis et les populations civiles en Haute-Garonne, Ariège et Haute-Pyrénées. Il commande 4 compagnies qui se dirigent vers les Pyrénées, dont 2 vers l'Ariège, la 10e et la 11e compagnie.
J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières.
Les événements qui se sont déroulés à Rieux-Volvestre s'inscrivent entre 2 drames dans notre région. Celui de Marsoulas, le 10 juin 1944, et celui de Rimont qui se produira les 21 et 22 août 1944. Le drame de Marsoulas, attribué à la 10e compagnie SS d'Asreich, va faire 27 victimes civiles et 2 membres du maquis. Les habitants de Betchat, tout à côté, eurent le temps de fuir. Des maisons furent pillées et brûlées. La peur d'un tel événement effraie toute la région, d'autant que ce jour-là, la 11e compagnie SS traversait Caserres à la recherche de suspects, poursuivant vers Saint-Michel et Fabas. 5 victimes civiles supplémentaires sont à déplorer.
Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a su. il les meurt sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
Dans cette même période, des événements importants se déroulaient non loin au camp de Noé, situé à une dizaine de kilomètres de Rieux. Le 20 mai, la population juive restante était déportée dans le convoi 75. Il ne reste plus au camp que des Espagnols, anciens communistes et anarchistes. Mais le camp accueille de nouveaux arrivants, des Français communistes, des résistants, des réfractaires au STO, des déserteurs italiens, hollandais, des nomades, des anglo-américains, et 163 seront déportés plus tard à Buchenwald et Ravensbrück.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage.
En juillet, une partie du camp est récupérée afin d'installer une batterie allemande susceptible de protéger la poudrerie du Foga, toute proche. Le 19 août, le camp sera libéré par le maquis de Rium. Donc, en juillet, le camp de Noé est désorganisé. La libération du sud-ouest se prépare et on assiste à un retournement des idées de la part des gardiens, moins de vigilance. Les évasions se multiplient.
J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières.
Tout d'abord, ce 14 juillet, le gouvernement de Vichy avait supprimé le jour du 14 juillet comme fête nationale. Alors, le maquis de Cazères, avec son chef, Raymond Garot, dit Marius, a décidé de marquer l'événement. On défie la Carbone. Cazères, Montesquieu Volvestre. On s'arrête à de nombreux monuments aux morts. Ici, à Rieux, avec l'accord de son maire, Mathieu Lacombe, un grand drapeau tricolore imprégné de la croix de Lorraine est tissé au sommet du plus haut sapin de Rieux. Nous l'avons laissé flotter toute la journée du 14 juillet sans inquiéter personne. Ce jour-là, deux prisonniers de Noé, proches de la résistance, deux Hollandais, vont s'évader afin de rejoindre le maquis de Cazères. Car il y a un de leurs amis déjà au maquis. La gendarmerie de Muret en informe la brigade de Rieux. Le matin du 15 juillet, ces évadés sont rattrapés près de l'ancienne gare de Rieux par la gendarmerie de Rieux, qui les retient. Les responsables du maquis de Cazères, Martre Saint-Michel, Raymond Garot, est informé. Il téléphone à la gendarmerie leur demandant de garder les prisonniers qu'il compte lui-même faire récupérer et libérer par la résistance dans la soirée. Malheureusement, cette opération de récupération par le maquis de deux des leurs sera un échec. Quelle est la cause de cet échec? Les maquis de la région savent que cette brigade de Rieux est la seule du secteur à ne pas s'être rangée encore aux côtés de la résistance. Dans les autres brigades, il y avait, entre les gendarmeries et les maquis, des rapports de non-agression, voire d'entente, car on sentait la victoire prochaine.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.
nous avons obtenu le déroulement exact de l'opération de récupération grâce aux écrits de plusieurs maquisards présents dans ce commando. Alors je vous donne mes sources. C'est Chronique des bords de Garonne, La mort en vert de gris, Le maquis de Caserre, tome 5, d'Henri Soume, aux éditions Loubatière. Alors plusieurs autres versions ont été données, véhiculées et transformées de bouche à oreille, fausses. Aussi, nous n'entrerons pas dans la polémique après tant et tant d'années écoulées. Disons seulement que le maquis de Caserre, venu libérer les deux Hollandais, ont trouvé la gendarmerie vide. Les résistants ont ainsi été confrontés aux soldats allemands avertis qui les ont surpris.
Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.
Plusieurs choses sont à préciser. D'abord, le nombre de maquisards était 14, venus dans deux véhicules, une voiture Matfort et un camion Fort. Et les résistants ont dû abandonner leur véhicule récupéré par les Allemands en fuyant. Les maquisards, se voyant pris, tirent en direction des Allemands, blessent deux soldats, dont un grièvement. La riposte tue le jeune résistant Mario Tassara. Il y aura aussi deux maquisards blessés. C'est devant la porte du moulin de Rieu, en contrebas, que Mario, un beau garçon de 23 ans, s'est écroulé, atteint par une rafale. En tombant, il a poussé un grand cri. Dans un coin du cimetière de Rieu, sur sa tombe, toujours entretenue par la colonie italienne, on peut lire « Mario Tassara, âgé de 23 ans, né à Gênes, Italie, prisonnier des Allemands pendant la bataille de Grèce, évadé et engagé au maquis de Caserre, tué au combat à Rieu par un détachement allemand le 16 juillet 1944, la colonie italienne reconnaissante. Prisonnier des Allemands en Grèce, contraint d'endosser l'uniforme nazi, Mario était envoyé en occupation en France. Il avait fui. Il avait échoué à Caserre-sur-Garonne et rejoint le maquis de Caserre. Mario est mort pour la France, ce 15 juillet 1944, peu avant minuit, et non le 16, comme on le dit. Le groupe de résistants a fui, sous les tirs de grenades, en traversant l'Arize, côté moulin et côté arrière de la gendarmerie, fuyant à travers champs, amenant deux blessés, l'un à l'épaule, l'autre en sautant du mur du moulin de l'Arize.
Attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.
Ensuite, les soldats allemands forcèrent la porte d'entrée de la caserne pour pénétrer dans la gendarmerie avec des tirs de grenades, visitant tous les appartements et les fouillant d'une façon musclée pour débusquer les terroristes, pensant qu'ils étaient à l'intérieur. Les responsables de ce groupe, ayant demandé des renforts pour mener son enquête, est arrivée une compagnie de la division d'Asrach avec le capitaine Müller qui a débarqué sur les lieux au matin du 16 juillet 1944. Il faut trouver les responsables de cet attentat. Trois soldats allemands viennent alors chercher le maire du village, Mathieu Lacombe, qui, hélas, doit porter le poids de tout ce qui vient d'arriver afin qu'il s'explique. On lui demande de désigner des otages en représailles, ce qu'il refuse catégoriquement, et se constitue lui-même comme seul prisonnier, et il est donc arrêté. Persuadé qu'il sera exécuté, avant de les suivre, il embrasse son épouse et lui remet, en présence de sa jeune belle-sœur, sa montre, son alliance et son portefeuille. De nombreux témoins, derrière leur volet, se souviennent de l'avoir vu passer, livide, encadré par deux soldats, tandis qu'un troisième tenait sa mitraillette pointée dans son dos. Conduit à la gendarmerie, il a dû s'expliquer longuement sur les raisons de ce guet-apens, qui n'en était pas un, et surtout prouver que la population était étrangère à cet événement. Ne parlant pas l'allemand, il a eu la chance, la présence d'esprit, de demander le concours de Madame Brichwiller, qui était une personne qui habitait juste en face, réfugiée alsacienne, et qui parlait l'allemand. Pendant ce temps, les autres soldats allemands patrouillaient dans le village, fouillaient des maisons et des granges en quête de terroristes, recherchant armes ou des juifs cachés. Ils tiraient quelques rafales de mitraillettes dans le village, obligeant les habitants à se confiner chez eux.
La haine à nous tous et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
C'est là que les Rivois avaient eu connaissance du massacre des habitants de Marsoulas le 10 juin, lorsque deux maquisards cachés dans le clocher du village avaient tiré sur un convoi allemand traversant le bourg. Les soldats, fous de colère, assoiffés de vengeance, s'étaient alors livrés à une tuerie sauvage, en représailles, n'épargnant même pas les enfants. On peut donc imaginer la peur des habitants de Rieux ce 16 juillet 1944, cloîtrés chez eux. Pendant ce temps, on avait fait appel au médecin du village, le docteur Pat. Il prodiguait ses soins à un soldat allemand blessé, craignant que son état n'empire, avant de le faire transférer vers l'hôpital Purpan. En fait, ce soldat mourra 2 jours plus tard.
Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.
Après de longues heures de discussion, d'explication, Mathieu Lacombe, aidé en cela par cette personne servant d'interprète, réussit, faisant preuve de courage et sans jamais désigner des otages, insistant pour que seul lui soit prisonnier, à faire admettre que les villageois étaient étrangers à ce barrage et aux tirs qui suivirent. Avec beaucoup de détermination et de persuasion, il a convaincu le capitaine allemand, qui a salué son courage. Les fouilles négatives de certaines habitations et granges tout autour de la place confortèrent les propos du maire et achevèrent de disculper tout le village. Mais des jeunes gens durent défiler devant le corps du maquisard afin de vérifier que personne dans le village ne le connaissait. Nous avons recueilli le témoignage de certaines personnes encore vivantes aujourd'hui qui, avec beaucoup d'émotion, parfois des pleurs, nous ont parlé de ces moments interminables. Devant le courage de Mathieu Lacombe, son esprit de sacrifice, sa bonne foi, les soldats allemands, au grand soulagement de tous, renoncèrent à se venger sur des innocents, mais exigèrent qu'on leur apporte de la nourriture avant de quitter le village. Et les commerçants, l'épicière, le boulanger et quelques habitants donnèrent quelques denrées. Boîte de sardines, pain. L'officier allemand, au moment du départ, ordonna que le maquisard, dont on ne connaissait pas le nom, fût enterré comme un chien. Et ce, seulement le lendemain matin, avec interdiction de rendre le corps maquis, sous peine de représailles à l'encontre du maire.
Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.
Mathieu Lacombe, en se constituant prisonnier et refusant catégoriquement de désigner des otages, a su protéger tous les habitants de Rieuvolvestre et a eu un comportement héroïque. De plus, ayant caché des familles juives avec le concours de personnes de confiance en dehors du village, cela aurait pu être dramatique. Que serait-il advenu s'il avait été absent, ou s'il s'était enfui, ou si le soldat allemand était mort immédiatement? Merci donc à ce valeureux maire qui était prêt à donner sa vie pour ses concitoyens. Nous nous devions d'évoquer ces événements douloureux, ainsi que la personne de Mathieu Lacombe qui mériterait un témoignage collectif à la hauteur de son acte héroïque. Je vous remercie et à la prochaine émission.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creusent des lits, font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Si tes compagnons dans la nuit la liberté nous
retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.